Vous écoutez l'atelier des médias avec Connect, la solution de connexion Internet fixe par satellite qui permet de capter en haut débit partout en Afrique.
Salut, c'est Steven Jambaud de l'atelier des médias. En 2010, germait dans la tête de l'équipe de l'atelier une idée un peu folle, celle de développer une communauté en ligne avec pour point commun la langue française. Faire que les francophones de tous horizons puissent prendre la parole, s'exprimer sans avoir besoin d'un média traditionnel pour ça. C'est ainsi qu'est né Mondoblog, la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. 12 ans plus tard, Mondoblog est bel et bien vivant. Mondoblog.org accueille les contenus d'une communauté d'un millier de blogueuses et de blogueurs. Et chaque année, on en recrute des dizaines de nouveaux. L'empouvoirment se poursuit. Lire des histoires du monde sur des blogs, c'est bien, mais entendre ces voix du monde, ces accents, donne parfois une autre dimension à ces histoires. C'est pourquoi nous avons lancé Mondoblog Audio, que vous entendez à la fin de chaque atelier des médias. Pour en parler, je reçois Camille Deloche, responsable éditoriale de Mondoblog. Salut Camille.
Salut Steven, et bonjour à tous.
On a franchi il y a peu, pour Mondoblog Audio, un cap important.
Et oui, on a passé le cap des 100 Mondoblog Audio disponibles à la réécoute sur notre plateforme. L'idée, au départ, était que les auditeurs de RFI puissent prendre connaissance des articles extraordinaires que je publiais tous les jours sur Mondoblog. Le contenu de Mondoblog est incroyablement riche et je voulais que cette richesse puisse s'entendre à l'antenne. Que l'on entende les voix des blogueurs, leurs accents, leurs intonations, les voix de Bamako, de Cotonou, de Yaoundé, de Kinshasa, mais aussi hors Afrique, de Port-au-Prince, Antananarive ou Berlin. Pour que tous ces récits soient incarnés et que l'on puisse rencontrer les mondoblogueurs qui se cachent souvent derrière leurs claviers et leurs écrans.
Alors commence peut-être par nous expliquer le principe de Mondoblog Audio.
C'est très simple. Donner la parole à une blogueuse ou à un blogueur pour mettre un article en avant sous la forme d'une chronique à mi-chemin entre le livre audio et le billet d'humeur. L'idée, c'est de savoir de quoi parle la jeunesse francophone d'aujourd'hui, en particulier la jeunesse africaine très présente sur Mondoblog.
Alors concrètement, allons dans les cuisines de Mondoblog Audio. Comment ça se passe pour toi chaque semaine, Camille ?
Ok, alors, je commence par choisir un article. Parmi tous les articles de Mondoblog, il y en a 25 000 sur la plateforme, donc j'ai le choix. Je sélectionne un article qui a trait à l'actualité, soit la grande actualité nationale ou internationale, soit l'actualité plus intime des blogueurs, l'actualité d'un article très personnel qui présente un univers singulier. Ensuite, je prends contact avec le blogueur via WhatsApp. Et enfin, on se parle. WhatsApp est vraiment génial et super adapté à Mondoblog Audio. On discute, on fait un peu plus connaissance et avec leur accord, je fais un travail de réécriture le plus léger possible pour raccourcir leur article et l'adapter à l'oral.
Et l'étape d'après, évidemment, c'est celle de l'enregistrement, une étape cruciale.
Exactement. Une fois le texte prêt, les blogueurs s'enregistrent sur leur téléphone. Et c'est là que beaucoup me disent que s'ils écrivent, c'est justement parce qu'ils n'aiment pas parler. Mettre en scène leur article et le rendre vivant n'est pas une mince affaire. Dans cette étape du Mondoblog Audio, je me transforme souvent en coach vocal. Finalement, on fait deux ou trois prises et le tour est joué.
Et c'est le moment où on peut aussi révéler une astuce de journaliste radio, celle de se mettre sous la couette lorsque l'on a un enregistrement à faire pour ne pas qu'on entende la résonance de la pièce. Et il reste encore, avant cela, une dernière étape avant la diffusion de Mondoblog Audio.
Et oui, la dernière étape, c'est sa mise en onde. Il s'agit de musicaliser l'enregistrement, de poser une ambiance sonore dessus. C'est un travail très spécifique dont je ne m'occupe pas. Ce travail est fait par Simon De Creuse avec talent et virtuosité.
C'est le réalisateur de l'atelier des médias, il est avec nous en studio derrière la vitre au moment où on se parle. Tout ça fait que chaque Mondoblog Audio est unique, Camille.
C'est ce que j'aime dans Mondoblog Audio, c'est que chaque audio est différent, chaque audio parle de son auteur. Les Mondoblog Audio sont toujours très personnels et leur ressemblent. En écoutant les audios, on plonge dans un univers singulier pour sortir de soi pendant quelques minutes. C'est la grande magie du podcast.
Vous l'aurez compris, l'émission d'aujourd'hui est entièrement consacrée à ces Mondoblog Audio.
RFI.
Je vous propose d'écouter une sélection de quelques Mondoblog Audio diffusés depuis plus de 3 ans dans l'atelier des médias. Nous sommes en 2022 et nous n'arrivons toujours pas à vivre ensemble. Les armes continuent de tuer dans le monde. La paix n'est jamais acquise. Il y a un moment où tout bascule. Matagali, une de nos blogueuses ivoiriennes qui l'a vécu, nous l'a raconté.
Il y a 25 ans, j'étais une enfant heureuse. J'étais libre d'aller et venir, je courais partout. Je jouais avec les autres enfants dans l'enceinte de mon école. On était joyeux, bruyants et insouciants. Le monde s'ouvrait à moi. Mon imaginaire et mes projets n'avaient pas de limites. J'étais de l'autre côté du miroir, Je vivais dans un pays en paix, mais je ne le savais pas. Tout a changé l'année de mon baccalauréat, l'année des armes et l'année des larmes en Côte d'Ivoire. Du haut de mes 17 ans, j'ai soudain réalisé que mes rêves prenaient le large. La Côte d'Ivoire venait de franchir la zone rouge. J'étais confinée à la maison en frayeur et incertitude. Mes ambitions étaient circonscrites, tout est devenu plus petit, limité. Jamais plus je ne verrai les choses de la même manière. Je me suis promise de profiter de chaque minute de ma vie dès que la paix reviendrait. Mais la paix, elle a mis 10 ans à revenir, et même encore aujourd'hui. À nous qui n'avons pas perdu la vie, la guerre nous a volé nos rêves. Plus rien n'est pareil et jamais plus rien ne sera comme avant. La guerre a creusé un fossé. Les injustices d'hier ont ouvert la voie à des maux bien plus dangereux. L'extrémisme et le fanatisme s'installent, ici comme ailleurs. Nous n'arrivons plus à vivre ensemble. La paix nous échappe, elle court, elle glisse entre les mains. Pourquoi ? Simplement parce qu'à un moment donné, les adultes n'ont pas pensé que la paix se cultive et qu'elle s'apprend. La paix ne nous appartient pas, elle ne nous est pas due. Notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'adultes, c'est d'éduquer nos enfants dans le respect de la différence de l'autre. Aux futures générations, il faut parler de tolérance. Au lieu de cela, nous assistons à la perte de nos valeurs culturelles et à des bagarres fratricides. Éducation, justice, bonne gouvernance, solidarité, protection de l'enfance devraient faire partie de notre quotidien. Ce sont de précieux repères pour la paix et les fondations d'un monde vivable qui paraît si lointain aujourd'hui. Et si nous parlions de paix dans nos concessions, dans nos hameaux, dans nos villages? Et si nous parlions d'éducation à la paix dans nos écoles et dans nos médias? Et si nous parlions de paix autour d'un bon garba? Retenons bien ceci, la paix n'est pas un dû. La paix se cultive, la paix s'apprend.
La politique a gâté mon pays.
La paix se cultive et s'apprend. C'est un vibrant rappel de la mondoblogueuse ivoirienne Matagali du blog Destin de Lyon. Dans les médias, on invite souvent des spécialistes de ceci ou des experts de cela. Certains deviennent même des toutologues. Ils ne comprennent pas tout, mais ils ont un avis sur tout et le donnent à l'envie. Mais bon, les journalistes ont tout de même besoin d'experts pour répondre à leurs questions. Au Cameroun, les experts politiques sollicités par les médias vont trop souvent dans le sens du président Paul Biya. C'est ce que déplore notre blogueur camerounais William Fotsofonkam.
Une fois de plus, la nation camerounaise a écouté le discours traditionnel de notre bon roi, Sa Majesté Paul Biya, président à vie du Cameroun.
Mes chers compatriotes,
et il ne nous a pas déçus.
Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie.
Une rétrospective positive et plate des actions menées au cours de l'année. Des déclarations évasives sur ce qu'il reste à faire. Aucun projet concret, rien pour la jeunesse, rien pour l'économie, rien pour le peuple. Comme à chaque fois, la parole est ensuite donnée aux experts, ces intellectuels camerounais qui sont passés maîtres dans l'art de boucher les trous quand il s'agit de décrypter la situation de notre pays.
C'est un sujet clé, c'est un sujet névralgique, c'est vrai, auquel d'ailleurs le président de la République, son Excellence Paul Biya, a déjà apporté plusieurs réponses et idoines.
Le président a parlé de 3 nouveaux hôpitaux de référence. Les experts vous diront que le secteur de la santé se porte comme un charme. Ils ne feront pas mention des conditions déplorables dans lesquelles les malades sont traités dans ces hôpitaux. Ils ne diront pas non plus combien de malades meurent parce que le personnel n'a pas été encouragé à s'occuper d'eux. Si le président évoque l'ennemi terroriste Boko Haram, les experts ont tout fait d'annoncer la victoire camerounaise. Ils oublient la population qui fuit les zones d'habitation, terrorisée par les assaillants qui égorgent et mutilent sans raison. Ils omettent de préciser que des enfants sont délogés de leur village et se retrouvent ainsi sans abri et sans avenir. Ils ne disent pas non plus que la plupart des membres du Boko Haram qui nous attaquent sont des Camerounais que la misère et l'ignorance ont forcés à rejoindre l'ennemi. Ce qui est étonnant et écœurant, c'est que ces experts qui décryptaient les messages du roi Lion sont des intellectuels dont le niveau d'éducation et de réflexion est incontestable. Ils sont journalistes, professeurs d'université, économistes, etc. Comment donc font-ils pour passer à côté de l'essentiel? Nos experts pensent-ils que le fait de tout analyser de façon positive va aider le pays? Au Cameroun, on gagnerait à se dire les choses en face. Ce que les Camerounais attendent des experts, c'est de l'objectivité. Mais le peuvent-ils? Et s'ils diffusaient honnêtement la réalité, peut-être que pour eux, les problèmes commenceraient.
Le mondoblogueur camerounais de la première heure, Fotso Fonkam, du blog Le Petit Écolier. Il prouve au quotidien que le blogging est un outil pour raconter le réel, mais aussi dénoncer ses travers. Le blogueur et journaliste burkinabé Boukari Ouédraogo parle parfois de politique sur son blog. Il fait partie de ceux qui racontent leur quotidien et se posent des questions. Tenez, il s'est par exemple demandé pourquoi, étant donné ses problèmes d'accès à l'électricité, l'Afrique n'investit pas dans l'énergie solaire, alors même que le soleil ne manque pas sur le continent.
Combien de Burkinabés sont vraiment satisfaits des services de la Société Nationale Burkinabé d'Électricité? Mieux vaut ne pas compter. Ça prendrait trop de temps. Comme dans d'autres pays africains, le Burkina Faso vit depuis des années avec les problèmes de délestage électrique qui nous plongent dans l'obscurité. Coupure de courant incessante, couverture limitée aux grandes villes, coûts élevés, voici comment résumer l'électricité en Afrique aujourd'hui. Nous sommes 650 millions à n'avoir toujours pas accès à l'électricité. Cela représente plus d'un Africain sur deux. Pourtant, avec les 45 degrés à l'ombre que les Burkinabés supportent pendant les périodes chaudes, nos problèmes d'énergie pourraient être facilement résolus. Le continent dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergie solaire. Mais force est de constater que cette énergie renouvelable est encore très largement sous-exploitée. En plus, l'énergie solaire, c'est cadeau. Mais bon, l'État n'agit pas vraiment pour encourager les Burkinabés à acheter des plaques solaires pour devenir autonomes en énergie. Ça reste cher. C'est comme si le monopole de la SONABEL, la Société Nationale d'Électricité, semblait toujours prioritaire. Dans les campagnes, il y a encore peu de temps, certains fonctionnaires qui ont les moyens utilisaient des plaques solaires presque en cachette. Les autres sont restés pendant des années avec des lampes à pétrole. Mais le Burkina Faso n'a jamais produit de pétrole. Il était obligé de l'importer en grande quantité et à coût de milliards pour alimenter la SONABEL. Alors que pour trouver de l'énergie, il suffit de lever les yeux au ciel. L'énergie solaire représente une solution prometteuse parce que c'est une énergie propre, économiquement accessible et dont le déploiement est rapide. Avec l'électricité solaire, on peut alimenter immédiatement des populations rurales isolées sans attendre le déploiement souvent long et coûteux des réseaux de distribution de l'électricité. Il faut donc décloisonner l'accès à l'énergie solaire pour la rendre accessible à tous, changer de modèle commercial et mettre en place des partenariats publics-privés. Voilà ce que les autorités burkinabées devraient faire.
Mondoblog.org.
Le blogging pour questionner le présent, c'était Boukari Ouédraogo de Ouagadougou au Burkina Faso. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, Steven Jambeau au micro. Et je dois vous avouer un truc, je suis du genre hyper connecté, à ne pas savoir lâcher mon téléphone. Lucrèce Gandigbé, blogueuse béninoise qui vit à Dakar, est un peu comme moi. Elle, c'est une vraie geekette. Elle a un temps été branchée, mais tellement qu'elle a eu peur de passer à côté de sa vraie vie. Mais à un moment, elle a compris qu'une cure de détox numérique s'imposait. Faites comme moi, écoutez ses conseils et astuces.
Les gadgets électroniques, Internet, les réseaux sociaux sont très utiles au quotidien pour peu qu'on en fasse un usage astucieux. Le problème, c'est qu'il est parfois bien difficile de lever les yeux de son téléphone ou de son ordinateur. Entre les films, les séries, les blogs et tous les outils du web 2.0, on devient très vite cyberdépendant. Moi-même, je l'avoue, je m'entends mieux avec les machines qu'avec les hommes. J'écris mieux que je ne parle. Et même quand je suis là, je ne suis jamais là. Je préfère me recroqueviller sur ma machine et retrouver mes amis en ligne qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. Pourtant, Internet nous fait perdre un temps précieux. Alors attention. Attention à ne pas oublier de vivre votre vie réellement, à sortir de cet univers fictif et à apprécier la vie autour de vous. Moi-même, j'ai peur de passer à côté de ma vie parce que je l'aurais vécue seulement virtuellement. À ce qu'il paraît, la première étape de guérison d'une addiction, c'est d'admettre qu'on est accro. Donc voilà, je l'admets, je suis accro à Internet. Est-ce une bonne chose? Je ne crois pas. Ai-je envie de guérir? Je ne sais pas. Mais je crains parfois le burn-out numérique. Pour le sevrage numérique, il nous faut une volonté exceptionnelle pour passer moins de temps sur la toile. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Si vous ne vous sentez pas concerné, je crois que c'est parce que vous êtes encore en phase d'incubation de la maladie. Mais vous portez quand même le mal et il faut guérir. Personnellement, j'en suis toujours à la première étape du processus de guérison. Reconnaître que mon utilisation d'Internet est un problème.
Mondoblog.org.
La mondoblogueuse béninoise Lucrèce Gandigbé va mieux, rassurez-vous. Elle arrive parfois à décrocher des réseaux sociaux. Si, je vous assure, quand je l'ai rencontrée à Dakar l'année dernière, je veillais en face d'elle à garder mon smartphone dans la poche. Dans la vie, on peut parler de sujets sérieux avec légèreté. Sur un blog aussi. Le blogueur camerounais Ecclésiaste de Djuy le montre sur son blog où il parle de plein de choses. C'est toujours intéressant et divertissant. Écoutez par exemple sa lettre ouverte d'un préservatif à la population camerounaise.
Bonjour les gens-ci. Je me présente. Moi, c'est Super Alex. Je suis en latex. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur votre pays-ci, alors je viens en renfort. Par exemple, on m'a fait savoir que vos filles tombent enceintes à chaque saison de pluie. C'est vrai ça? On m'a aussi fait comprendre que vos adolescents sont devenus amis intimes avec les maladies sexuellement transmissibles. Et n'en parlons pas du sida, qui ne serait qu'un syndrome inventé pour décourager les amoureux. Les gars, moi je n'ai rien contre vous, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si je peux donner un petit coup de main, je suis seulement vexé parce que j'entends certaines légendes que mes détracteurs propagent et qui intoxiquent la jeunesse. Est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Moi, je ne suis pas compliqué, je suis en latex. Tu m'enfiles et puis c'est tout. Je suis aussi disponible en version féminine. Dès que je suis là, toi le gars, tu n'as plus à t'inquiéter si la fille est en période ou pas. Et toi la go, tu n'as plus à te tourmenter sur l'état de santé de ton partenaire. Et je rappelle en passant que le sida n'est pas une maladie honteuse ou une maladie issue d'une malédiction. Le sida est simplement une infection virale parmi plusieurs autres. Moi, je m'appelle Super Alex. C'est vrai que je coûte un peu cher en pharmacie, mais quand même. Quand c'est la bière que vous voulez acheter, est-ce que vous vous posez même ce genre de questions? L'autre jour, j'entendais les gens fustiger ma présence, comme quoi ma fabrication est une industrie juteuse. Je ne refuse pas. Mais est-ce que je ne sauve pas alors des vies? Hein? Même si c'est le business qu'on fait avec mon nom, et que ça te permet de régenter ton planning familial, où est le problème là-dedans? La jeunesse camerounaise se perd. C'est pourquoi moi je viens en renfort. Parce que j'ai aussi appris que vous regardez beaucoup les vidéos pornographiques. Que vous organisez des rencontres de groupe avec WhatsApp qui se terminent on devine comment. Et que vous achetez parfois le piment déjà sanitarisé. Je connais aussi la mentalité de vos adolescents qui tournent des sex tapes et qui postent ensuite les vidéos sur YouTube. Sans parler des très jeunes filles qui sont déjà sexuellement très très actives dès le collège. Vrai, hein? Les Camerounais ont une sexualité devenue très incontrôlée qui n'aide pas à lutter convenablement contre le VIH-Sida. Combien de Camerounais peuvent être sexuellement fidèles envers un ou une seule partenaire? Aucun. Combien de Camerounais utilisent systématiquement le préservatif avec des inconnus? Très peu. Combien de Camerounais ont fait le test du VIH et combien ont déjà fait l'amour après avoir ingurgité des casiers et des casiers de bouteilles de bière? Hein? S'il vous plaît les gens-ci, utilisez-moi. Je sais que si je vous demande l'abstinence, vous allez sauf que m'envoyer au champ. Alors s'il vous plaît, pensez à moi, Alex de Super Latex. Même si je ne suis pas encore biodégradable. Et n'écoutez surtout pas ce que mes nombreux détracteurs vous racontent.
Le Camerounais Ecclésiaste de Djuy du blog des Camerounaiseries. Pour terminer cette sélection de Mondoblog Audio, je vous propose de partir à Bamako, où RFI n'émet malheureusement plus pour l'instant sur le 98.5 FM. Le blogueur malien Georges Attino nous parle du grain, ces réunions entre amis, le soir et la nuit, où l'on refait le monde autour du thé. Si vous le pouvez, fermez les yeux et écoutez Georges Attino.
Il est 19h
et le soleil s'empresse de se cacher derrière les collines de Bamako. Le signal est donné. Le muezzin lance un appel aux fidèles. C'est l'heure de la prière du soir. Tapis et chapelet en main, les vieux prennent le chemin de la mosquée, tandis que de mon côté, j'arpente les petites ruelles de la ville. Direction le grain. Ces groupes de discussion où l'on se réunit autour du thé qui pullule dans toutes les ruelles de Bamako. La nuit noire est tombée. Depuis notre grain, on voit au loin les phares des motos Jakarta qui éclairent le petit kiosque de David. De toutes petites lumières rouges scintillent et se passent de main en main. Chaque lèvre dépose sa part de salive sur la mèche de cigarette. Les fumeurs sont solidaires. De temps en temps, la cigarette disparaît et réapparaît comme par magie. Ce tour de cache-cache est rythmé au pas des personnes âgées qui empruntent notre ruelle. Les mégots de cigarettes finissent ensuite par terre, mourant près du feu qui leur a donné vie. Sur le fourneau, la théière trône majestueusement au milieu des charbons ramassés ça et là. L'eau bout. On y met le thé. C'est le départ pour une nuit de guingui, c'est-à-dire de hibou. On nous surnomme ainsi les hibou parce qu'avec mes compagnons, amis et potes du grain, on ne dort jamais la nuit. Enfin, si, mais très tard ou très tôt le matin. C'est selon. Le thé durera donc comme d'habitude sur le feu toute la longue nuit. C'est la particularité du thé guingui. Dans l'attente des uns et des autres, et pendant que le thé infuse, les dos sont courbés et les regards plongés sur les écrans des téléphones portables. Parfois, les yeux décrochent des écrans pour accompagner du regard les silhouettes des jolies filles du quartier qui apparaissent, puis disparaissent. Le thé est prêt. Il est temps. Une longue discussion s'entame sous les étoiles. L'obscurité crée de l'intimité. On parle de tout et de rien. On refait le monde. Puis, à un moment, on entend la voix du muezzin qui dissipe les bribes d'ombre restantes. La nuit s'achève comme elle a commencé. Il est maintenant temps d'aller dormir.
Le blogueur malien Georges Attino, qui sur son blog parle comme personne des cultures de son pays, le Mali. Tous les audios que vous venez d'écouter sont disponibles sur mondoblog.org et sur une liste de lecture SoundCloud. Vous entendrez un nouveau Mondoblog audio dès la semaine prochaine dans l'atelier des médias. Et puisqu'on parle d'audio, je salue nos mondoblogueurs qui se mettent au podcast. Tout d'abord, le mondoblogueur camerounais René Jackson Kowa, qui en plus de rédiger toutes les deux semaines la newsletter éditorialisée de Mondoblog, produit N.com, un podcast qui donne la parole aux acteurs et actrices du changement dans le domaine du numérique. Le Béninois Fumilayo Asanvi propose lui aussi des entretiens avec celles et ceux qui font l'actualité d'aujourd'hui et de demain, d'ici et d'ailleurs, tout un programme, ça s'appelle Avec Fumi. Et enfin, le Togolais Edem Gbetoglo avec le podcast Ce que j'aurais aimé savoir, où ses invités se livrent sur leur rapport à la vie, ses joies et ses peines. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse, avec qui Camille Deloche m'a aidé à préparer cette émission. Je salue également Nolwenn Autré et Nitya Pakiri qui travaille au quotidien sur mondoblog.org. La semaine prochaine, je recevrai Alexis Lévrier, un universitaire spécialiste des relations entre journalisme et politique, pour revenir sur la campagne présidentielle française, ses résultats et la vision des médias du gagnant ou de la gagnante du scrutin présidentiel français dont le résultat n'était pas encore connu au moment où j'enregistrais cette émission. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi, avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts ou encore l'appli Radio France. Mettez des étoiles au podcast de l'Atelier des médias sur les plateformes que je viens de citer et commentez-le parce que les contenus très écoutés remontent davantage dans les applis de podcast. N'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou à m'envoyer un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambot et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
Vous avez écouté l'atelier des médias avec Connect. Connect, l'internet fixe par satellite qui permet de capter en haut débit partout en Afrique, dans les grandes villes, les petites et même au village.